Isabelle Morizet.
Bonjour. Il aime aimer. Et quand il aime, eh bien, il ne rechigne pas à idolâtrer. Mais attention, jamais il n'est dupe de rien. Je reçois un conteur, journaliste, écrivain, grand reporter, réalisateur et homme de scène qui est le garant de la mémoire du 7e art. C'est lui que vous entendez renifler. Le seul qui soit légitime aussi bien sur Marcel Proust qu'Elisabeth Taylor, sur Bertolt Brecht que sur Madonna. Ses meilleurs amis ont pour nom Isabelle Adjani ou Brigitte Bardot. Ce journaliste à la plume lyrique et acidulée dont les chroniques dans Télématin sur France 2 sont euphorisantes, eh bien c'est Henri-Jean Servat qui sera du 5 au 28 juillet dans le festival Off d'Avignon avec un spectacle seul en scène intitulé Une soirée so chic avec Henri-Jean Servat. Et effectivement, il faut dire que sa mémoire est en technicolor puisqu'elle est peuplée de rencontres singulières avec les plus grandes stars de la planète. Donc, et bien vous l'avez compris, il est temps de le faire parler.
Europe 1.
Bonjour, cher Henri-Jean.
Bonjour, ma chère Isabelle. Bonjour, bonjour. Et on parlait de radio en technicolor, maintenant c'est la radio rose. Je suis rose d'émotion d'entendre ce que vous venez de dire à mon sujet, ma chère.
Ce n'est que le début. Alors, Henri-Jean Servat, en fait, on se demande toujours si ceux qui ont fait carrière en approchant les stars ne rêvaient pas eux-mêmes d'en être une. Alors, je vous pose la question, à vous qui n'ignorez rien des coulisses du 7e art ni des illusions du paraître, auriez-vous aimé être une star de cinéma, Henri-Jean Servat ?
Ah non, alors pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je me suis senti toujours l'âme d'un voyeur. Vous voyez, je voulais avaler des images chamarrées, rutilantes, brillantes, clignotantes, scintillantes. Je voulais avaler ce genre de choses, mais je ne me suis jamais mis en position. Je me suis amusé, on m'a fait traverser des films, faire deux, trois choses comme ça. Mais jamais j'ai voulu être autre chose que celui qui assistait, qui comptait, qui racontait, qui voyait, et puis qui essayait de transformer un petit peu ce genre de choses.
Voilà. Alors, même pas diriger les acteurs ou les actrices, être scénariste, producteur?
Non, je me suis amusé, si, je l'ai mis en scène un opéra. J'ai mis en scène des documentaires, enfin, j'ai dirigé des documentaires.
De nombreux. Et ça continue,
mais je n'ai jamais... j'ai pas aimé la lumière. Pour moi, non, en revanche, j'adore scruter. Pourquoi, par exemple, Bardot devenu une star? Pourquoi Delon devenu une star? Pourquoi la lumière s'est arrêtée sur eux à un moment de leur histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour
en
moi,
fait,
non.
Vous aimez analyser les mécanismes qui nous semblent mystérieux.
J'aime regarder, j'aime voir.
Voilà. Le chapitre de l'histoire du cinéma qui a votre préférence couvre quelle période?
J'adore le cinéma français des années 60, l'explosion Bardot, toutes les petites sœurs de Bardot, je suis fou de ça. Et j'adore le cinéma hollywoodien de la fin des années 40, la Metro Goldwyn Mayer, les grands studios, les rôles de femmes, à la fin Jean Harlow, puis à la Fox, bien évidemment, la MGM avec Ava Gardner, avec Grace Kelly, et puis la Fox avec Marilyn Monroe, bien sûr.
Je comprends en vous écoutant pourquoi vous aimez effectivement tout ce qui s'intime. Alors une chose est certaine, Henri-Jean Servat, vous préférez les actrices aux acteurs. Pourquoi cette fascination justement pour les divas d'un 7e art de légende plus que pour leur alter ego masculin? Et puis pourquoi cette fascination pour les actrices du cinéma d'antan plus que pour les jeunes pousses prometteuses?
Non mais parce que non, j'ai effectivement une fascination pour les actrices parce que je trouve qu'une femme est plus fascinante par sa vêture, par sa coiffure, par son maquillage, par son vécu, par sa légende, par les drames à la fois qu'elles contiennent, qu'elles extériorisent ou bien qu'elles intériorisent. Je trouve qu'un homme, je suis beaucoup moins sensible à ce genre de choses, beaucoup, beaucoup moins sensible, je dois dire. Et pourquoi elle me fascine? Parce que j'aime les gens qui ont des légendes, j'aime les gens qui ont des histoires. Alors vous prenez les jeunes starlettes de maintenant. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas mignonnettes et qu'elles ne sont pas jolies, mais...
Mais elles sont en devenir, ça
voilà,
vous intéresse
moins. Tandis qu'en revanche, s'intéresser à la carrière, je sais pas, de Garbeau, de Dietrich, de Suzanne Ward, de Myrna Loy, c'est un rêve. C'est la carrière, elle est faite, elle est finie, elle est close sur elle-même. On peut analyser quand, comment, pourquoi. Ça me fascine beaucoup plus que la carrière d'une petite starlette, quelque intéressante soit-elle, mais qui est, comme vous l'avez dit, chère Isabelle, qui est en devenir. Voilà. Il y a eu une époque où il y avait des véritables stars, il y avait une seule chaîne de télé, il y avait un ou deux grands magazines, ça suffisait pour colporter le mystère, pour colporter la légende. Maintenant, est-ce qu'une créature est mystérieuse? Non. Est-ce qu'une actrice a une véritable légende? Ça n'existe plus.
Alors, Jean-Claude Brialy, comme vous, était obsédé par la mémoire. Il a enregistré les souvenirs de Marlène Dietrich, il a enregistré les souvenirs d'Edith Piaf. Et tout cela nous parle bien sûr d'une époque. Est-ce que vous l'aimez, votre époque, notre époque actuelle, Henri-Jean?
Oui, je l'aime, mais pour être franc... Je ne suis pas sûr de l'aimer beaucoup, mais parce que je suis dedans, donc je la vis, si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que je l'aime véritablement. On peut vivre dans le cœur d'une époque. Par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, je trouve que le sort qui fait à la condition animale me désespère.
Bien sûr qu'on va l'évoquer.
Il y a bien une chose qui me désespère, mais l'époque, il faut bien vivre, on est dedans, il faut vivre, voilà, se mettre au travail, et puis s'arranger pour la rendre aussi agréable, aussi plaisante, aussi chatoyante que possible. Même s'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'attrait fascinant à notre époque aujourd'hui, je ne trouve pas, je trouve pas.
On retrouve immédiatement Henri-Jean Servat.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit le journaliste et chroniqueur Henri-Jean Servat. Retour tout de suite sur son parcours de vie.
Alors, cher Henri-Jean Servat, elle fut cadrée et austère, votre adolescence, très loin du monde des saltimbanques dont vous êtes devenu le confesseur. Votre père, industriel en province, n'appréciait guère le cinéma, n'est-ce pas ?
Non, pour mes parents, c'était un art mineur. Mes parents nous amenaient au... Il fallait aller aux conférences de connaissances du monde, aller écouter les concerts de musique classique. Le cinéma, c'était un art de baladin, c'était un art d'histrion. Quoi. Ça avait,
pas très respectable.
Non, c'était pas bien. Quoi. On pouvait pas, comment peut-on se cultiver en allant regarder les pantalonnades de Funès ou les déshabillages de Starlet. Quoi. Ils interdisaient pas, mais ils avaient un mépris assez grand pour ce genre de choses. Quoi.
Qu'est-ce qui était au cœur des préoccupations alors de vos parents ?
Non, ma mère me faisait lire Maupassant, mon père m'emmenait faire des balades touristiques, on partait visiter toutes les grandes villes d'Europe avec ma petite sœur. On faisait de la culture, mais de la culture, si j'ose dire, intelligente, de bourgeois, de province, mais pour lesquels vraiment j'adore absolument mes parents. Mais c'est pour ça que moi, le cinéma était paré, si j'ose dire, des couleurs de l'interdit.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il ne fallait pas s'intéresser au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en plus... En plus, je me souviens qu'à la même époque, on est à l'orée des années 60, je me souviens qu'il y a un archiprêtre à Montpellier, dans la basilique de Montpellier. Je vais à la messe avec mon père, ma mère et ma petite sœur. Et on entend un jour, je me souviens, l'archiprêtre qui monte en chaire et qui dit « Je vous demande, chers fidèles, de ne pas aller voir les films de Brigitte Bardot. » Quand vous avez 14 ans et que vous entendez que vous êtes un petit puceau...
Rien de tel pour nourrir la fascination.
Mais bien sûr, et puis alors vous vous souviendrez, Isabelle, qu'à la sortie des églises, à l'époque, il y avait le tableau de la cote de la centrale catholique, avec les films qui étaient cotés selon les normes de la religion catholique.
Ceux que l'on pouvait aller voir et ceux qui étaient interdits.
Et alors, tous les films de Bardot étaient systématiquement 5 à rejeter, sauf le fameux Babette s'en va en guerre, que Brigitte avait tourné, qu'elle avait tourné boutonné jusqu'au col, parce qu'elle voulait que les enfants puissent aller voir son film. Donc moi, j'ai vécu avec l'interdit des créatures sulfureuses de cinéma. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup. Et j'ai eu qu'une envie, alors, puisque je ne pouvais pas y aller. Mais ce n'était même pas un refus. Je pensais que mes parents m'auraient profondément méprisé si j'allais voir ces idioties. Et je me souviens, pour tous les jours, mes parents avaient un appartement au bord de la mer à Palavas-les-Flots. Et un soir, j'ai fait le mur, je suis sorti par le balcon, bon, peu importe. Et je suis allé voir, j'avais vu sur le bord du canal une affiche « Angélique, marquise des Anges ». Je suis rentré voir ce film. Je suis
seul.
Tombé seul, bien évidemment.
Vous avez quel âge ?
Oh, je dois avoir 14 ans, je ne sais pas, le film sortait. Mais je suis passé, vous savez, devant la caisse à quatre pattes, pour pas que la caissière, il ne fallait pas qu'elle me vit, parce qu'elle m'aurait empêché de rentrer.
Comme dans un film.
Et alors, j'ai vu ce film. Donc, le cinéma était sur la plage, c'est le cinéma du casino à Palavas-les-Flots. L'homme de service avait ouvert les portes arrière, ce qui fait que j'ai découvert le désir en voyant Michel Mercier et ses seins formidables. Et en même temps, il y avait le bruit de la mer, le ressac des vagues, l'odeur de l'écume qui était comme ça. C'était lié au désir, le va-et-vient du désir.
Le paradis, la béatitude absolue.
Voilà, et je suis tombé donc amoureux des actrices de cinéma en ayant franchi un interdit à ce moment-là. Voilà.
Mais Henri-Jean Servat, je prends justement au bon cette phrase. En fait, ce sont plus les actrices que leurs films qui vous ont fasciné en grandissant. Quand vous avez fait Hippocagne et Cagne, vous saviez qu'un jour, vous rejoindriez leur planète ?
Ah pas du tout, non, mais Hippocagne et Cagne, vous pensez ma pauvre Isabelle, je faisais des traductions de grec de 8 heures, on faisait des traductions. Donc est-ce que j'imaginais pas une seule seconde que j'étreindrais, que j'irais me caler comme les beaux gros seins de Michel Mercier? J'imaginais jamais que ça m'arriverait, qu'elle serait une de mes meilleures amies et que je l'adorais, j'imaginais pas ça, vous pensez bien.
Alors, Henri-Jean Servat, armé d'une maîtrise de lettres, vous êtes allé parfaire votre cursus dans une université américaine, le très chic Amherst College, aux côtés d'ailleurs du petit-fils du président Eisenhower, et là-bas, c'est-à-dire plus près tout de même de Hollywood que lorsque vous étudiez en France, et ben vous avez terminé votre cycle d'études avec une thèse portant sur Marilyn dans le miroir aux illusions de Hollywood. Donc votre vocation prenait corps. En fait, tout se mettait en place.
Mais voilà, tout à fait.
Sous couvert d'études.
Bien sûr, mais bien sûr. Alors je suis donc allé là-bas. D'ailleurs, il y avait un beau jour, il y a eu un frémissement sur le campus. C'était l'université la plus chère. Moi, j'avais aucun mérite. J'avais obtenu une bourse. Je travaillais correctement et donc j'avais eu la bourse là-bas. Et un beau jour sur le campus, on apprend que le fils du prince de Monaco
qui arrivait,
fils de Grace Kelly. Donc alors autant fils du prince de Monaco, tout le monde s'en fichait complètement. le fils de Grace Kelly, j'ai vu que c'était qu'un frémissement phénoménal. Tout un chacun vibrait encore pour ce qu'avait été Grace Kelly et ce que restait Grace Kelly. Donc j'ai eu la chance dans ce campus. Bon, l'être là, il y avait donc Albert Grimaldi, il y avait beaucoup de gens. Et j'ai eu. Les universités américaines, c'est formidable. Vous demandez à voir un film, vous pouvez voir un film, vous avez les livres que vous voulez. C'était alimenté. Il y avait les Phoenixson aussi en classe avec moi. Donc c'était tout à fait séduisant, extraordinaire. Et puis j'ai trouvé que l'histoire d'Hollywood, vue par Marilyn, parce que vous savez, Hollywood, on croit que c'est un monde libéral, on peut faire ce qu'on veut, mais pas du tout. Le monde du cinéma américain,
on va
les
dire
actrices,
qu'il y régnait une dictature.
Mais oui, elles sont réveillées à 4h ou 5h du matin, elles sont habillées, elles avaient, vous savez, des espèces de portants pour se mettre avec leur robe ou pas froisser les robes. Quand vous aviez un mot de trop ou un mot d'insolence avec votre patron, vous étiez suspendu, on vous payait
pas
votre cachet.
Elles ne choisissaient pas leur rôle.
Elles choisissaient pas leur rôle, on les mettait sur tel film, elles pouvaient tourner deux films en même temps, elles pouvaient s'habiller. Donc c'était vraiment, c'était pas du tout, on imagine les stars hollywoodiennes avec les piscines en haricots et puis les haciendas mexicaines, c'est pas ça du tout, c'était vraiment le forçat, c'était les batelières de la Volga, si j'ose dire. Et Marilyn, là, ce qu'elle a foutu par son esprit dolent, elle a réussi à pourrir le système, à le perturber, du moins de l'intérieur. C'est ça que je trouvais formidable, sans être une suffragette, une révolutionnaire militante, uniquement avec une plastique renversante et avec ses envies qui faisaient qu'elle voulait faire ce qui lui plaisait. Voilà, Marilyn, elle voulait passer l'après-midi avec un beau Mexicain dans une chambre d'hôtel du Beverly Hills Hotel, ce qu'elle faisait, elle était contente, et elle avait un sentiment très conscient de sa liberté, de ce qu'elle avait
faire.
Et vous
dites qu'elle a réussi à pulvériser le système de l'intérieur.
Ah oui, elle a réussi à l'ébranler, elle a réussi à le fissurer, on n'a plus pu après, même s'il y a eu des actrices comme Olivia de Havilland ou comme Bette Davis qui ont fait changer les contrats, vous savez, vous aviez des contrats qui était absolument, on vous obligeait à tourner le rôle qui avait été choisi pour vous, et vous ne pouviez rien faire évoluer d'une façon ou d'une autre, et Olivia de Havilland et Bette Davis avaient attaqué leurs employeurs pour pouvoir faire changer ça, mais Marilyn, ce qu'elle a fait, elle l'a fait par sa seule manière d'être.
On retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Henri-Jean Servat.
Les divas et les actrices d'antan le fascinent. L'invité d'Isabelle Morizet a côtoyé et interviewé les plus grandes stars. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'entretien se poursuit jusqu'à 16h.
On continue de dérouler le fil de la mémoire de celui qui sait si bien confesser les stars, Henri-Jean Servat. Alors, Henri-Jean, vous êtes certainement le seul journaliste recruté par Libération pour un papier commandé, en fait, par le Figaro, faut nous raconter.
Ah oui, bah c'est-à-dire que je me suis retrouvé à Paris, donc je travaillais. J'avais démarré ma carrière en venant des États-Unis à midi libre à Montpellier. Je suis parti à Paris, et puis à Paris, un jour, j'ai reçu une invitation anonyme pour aller assister à une soirée d'acteurs et d'actrices. C'était une espèce de maison de retraite quasi médicalisée. Et il y avait des vieux acteurs, des vieilles actrices qui étaient là pour entendre parler du Gaby Morlaix, une conférence de Gaby Morlaix, avec accroché au plafond les pantoufles de Gaby Morlaix, les chapeaux de Gaby Morlaix. C'était absolument surréaliste, c'était absolument insensé. Et moi, je me souviens que j'ai eu envie d'écrire quelque chose. L'organisateur m'a dit, écoutez, le Figaro devait venir faire un papier, il n'a pas pu venir faire un papier. Est-ce que vous voulez faire 14 lignes pour le Figaro, sachant que j'étais journaliste? Et je suis rentré chez moi et j'ai passé le week-end à faire 8 ou 9 feuillets. J'ai fait, je trouvais que ce n'était pas pour le Figaro, c'était pour Libération. Je les ai envoyés à Libération. Pendant 15 jours ou 10 jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis un beau jour, Serge Danet en personne, le pape du cinéma, de la critique ou quoi, m'a téléphoné, m'a dit, écoutez, votre histoire, ça vaut rien du tout. Gaby Morlaix, on s'en fout, elle est morte.
Mais j'aime votre plume. Lui.
Mais je dis, ce que vous réussissez à faire vivre un machin. Et venez me voir, je vais vous passer votre papier. Les 8 feuillets, je vais les passer. Donc ça fait 3 pages de Libé. Et on m'a engagé à Libé pour parler des acteurs, des actrices, du théâtre. Et j'étais très, très, très content.
Après Libération, vous avez officié donc comme critique de théâtre et de cinéma. Vous avez été engagé par Roger Théron en 86 comme grand reporter à Paris Match. Et alors là, vous avez creusé ce sillon qui vous a fait pénétrer l'intimité de stars dites inapprochables. Ah bon. Alors, Henri-Jean Servat, que faut-il posséder de plus que les autres journalistes pour entrer justement dans ce cercle si prisé et si fermé des stars planétaires?
Alors, je vous réponds tout de suite. Moi, je pense qu'il fallait... parce que vous savez combien de gens me disent des fois « Présente-moi un tel, présente-moi un tel ». Ils croient qu'il faut connaître leur carrière. Il faut connaître leur carrière. Moi, parce que de temps en temps...
Mais ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas. Mais avoir une véritable amour... Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais cherché à plaire. J'étais content. Peut-être, je ne sais pas, je vais être une personnalité qui devait les amuser, d'être genre... d'être amusant, d'être drôle, de connaître leur carrière, de vouloir savoir. Moi, je voulais apprendre des choses, je voulais apprendre.
Henri-Jean, les stars sont souvent versatiles. Oui. Elles sont tellement sollicitées qu'elles peuvent vous oublier du jour au lendemain. Elles s'entichent de vous et puis elles passent à quelqu'un d'autre. Comment faites-vous pour avoir des liens d'amitié et une vraie complicité qui dure dans le temps avec des stars internationales qui sont surprotégées?
Moi, par exemple, je suis rentré dans l'intimité d'Elizabeth Taylor, la plus grande star du monde. Mais Elizabeth Taylor, pourquoi? Parce qu'une fois, elle est venue au festival de Deauville, il fallait faire un papier sur le festival sur elle dans le programme. Je n'ai pas voulu être payé. J'ai dit, ne me payez pas, faites-moi prendre un verre avec elle. Et puis du coup, j'ai pris un verre avec elle, je suis allé dans sa loge, je lui ai dit dans son appartement à Deauville, je lui ai expliqué que j'étais là parce que, plutôt que d'avoir de l'argent, j'ai préféré prendre une coupe de champagne avec vous. Déjà, elle est flattée. Donc, quand elles perçoivent une véritable adoration, une véritable curiosité à leur rencontre, quand elles peuvent vous raconter... Moi, je me donne de savoir qu'Elizabeth Taylor, elle me racontait la plus belle histoire d'Elizabeth Taylor. Mike Todd, son mari, il avait acheté des diamants, elle voyageait avec les diamants. Et un jour, son mari lui avait loué une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, hein, elle avait emporté avec elle ses bijoux, bien évidemment, et un soir, pour faire plaisir à son mari qui avait acheté les bijoux, elle s'est mis la couronne en diamant de Mike Todd, elle s'est mis les émeraudes autour du cou, et les bracelets et les bagues aux doigts. Et elle a plongé dans la piscine comme ça, et elle m'a dit... Alors, je dis, moi, comme un con, je dis, mais alors, j'ai éclairé toute la baie, elle me dit, avec les bijoux. Vous non, mais c'est des choses idiotes, mais moi, je suis bon public pour ce genre de trucs. Voilà.
Les actrices, mais les acteurs aussi. Et parmi les acteurs, il y a ceux qui se verrouillent dans leur légende et s'enfoncent dans la solitude, comme par exemple Alain Delon, oui. On peut le dire, seul dans sa vie au quotidien, à Douchy, comme on peut difficilement le concevoir, n'est-ce pas?
Ah oui, mais moi, je suis allé, j'ai fait deux livres avec Alain Delon. Je pense qu'au début, il avait accepté, je lui avais proposé, il avait refusé. Et après, je pense qu'il est revenu sur son refus parce que c'est l'époque où il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin pas très gentil, pas très vrai non plus sur lui. Donc il a pensé allumer un contre-feu. Mais moi, j'étais ravi de le faire. Je suis allé passer plusieurs journées chez lui à Douchy, avec les chiens, avec déjeuner. Mais j'étais, je vous jure que si je me suis si bien entendu avec lui, et on est allé voir Belmondo. À l'époque, Belmondo était malade à l'hôpital. On a dîné très souvent ensemble dans des restaurants. Il a compris que je ne jouais pas. Donc tout se passe divinement bien.
Alors, en quelques mots, juste avant de faire une courte pause, il me semble qu'il y a tout de même une star de légende que vous auriez eu du mal à approcher parce qu'elle a réussi à se draper dans son mystère dès l'âge de 36 ans quand elle a renoncé au cinéma jusqu'à sa disparition en 1990, c'est Garbo. D'ailleurs, le grand réalisateur italien Federico Fellini disait que Garbo fut la fondatrice d'un ordre religieux appelé le cinéma. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, Garbo, est-ce qu'à la fin des années 80, quand vous étiez déjà journaliste, vous avez tenté de l'approcher ?
Non, parce que d'abord elle habitait à New York, mais vous savez la fameuse phrase qu'elle dit dans Grand Hôtel, « I want to be alone, I want to be... » Elle voulait être seule, elle vivait seule, elle ne voyait plus personne. Elle avait des liens affectueux et très tendres et délicieux avec Cécile de Rothschild. Elle ne voyageait qu'avec Cécile de Rothschild, avec Cécile Beaton qui les regardait, qui les photographiait. Et elle partait visiter la Grèce, elle partait visiter Chypre, Malte. Elle ne voyait plus personne. Et Greta Garbo, c'était...
Elle se fondait dans la foule, oui, mais c'était une voyageuse.
Ah, c'était une voyageuse.
Elle a vécu.
Ah oui, mais bien sûr.
Contrairement à Marlène Dietrich, elle n'est pas restée enfermée et verrouillée dans sa légende. Véritablement, comme on le pense,
Marlène Dietrich, que j'avais trouvé, mais par téléphone. Elle habite en face de chez moi, avenue Montaigne, voilà quoi. Non mais c'est vrai, mais Garbo, vous savez, il y a des moments, quand une actrice veut vraiment être seule, veut vraiment avoir la paix. Bah, par exemple, j'adore Isabelle Adjani, qui est une tendresse éblouie pour moi et tout. Quand Isabelle, c'est quelqu'un qui crée beaucoup, qui a envie d'être seule, qui fait sa pièce ou quoi, il ne faut pas les forcer, il faut. C'est mon amie, je la respecte, on n'est pas obligé d'être collé comme une arapette à son rocher toutes les secondes avec les gens qu'on rencontre.
On fait une pause, yes. Très courte, c'est promis, et on retrouve Henri-Jean Servat.
Europe 1. Et l'invité d'Isabelle Morizet, c'est Henri-Jean Servat, journaliste, chroniqueur. Il est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Cher Henri-Jean Servat, vous qui depuis des décennies entretenez avec les plus grandes stars planétaires une complicité qui sûrement agace vos camarades journalistes, que pensez-vous vraiment d'Internet qui permet désormais à n'importe qui de se substituer à un photographe ou à un journaliste pour lancer des news ou des scoops à partir d'éléments glanés sur un portable?
Bon, pour être franc, je ne m'en occupe pas, je ne fais pas. Donc
Mais ils prennent de la place, en fait, de plus en plus.
Oui, mais ils prennent de la place avec des gens qui ne sont pas intéressants. Moi, les gens qui m'intéressent, ils ne cherchent pas ça. Parce que je veux dire, les acteurs, les actrices que j'aime, à part Madonna qui en fait des tonnes, qui est une menteuse, qui m'agace au-delà.
Tiens donc, Madonna est une menteuse.
Mais oui, qui raconte n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi.
Vous êtes fâché avec Madonna?
Non, mais pas du tout. Je dis, elle a un très grand talent de chanteuse ou quoi, mais vous finissez une interview. Moi, j'aime bien quand ce sont des gens comme ça qu'on retrouve régulièrement pas. Vous finissez une interview avec Madonna, elle vous dit des trucs énormes, elle vous dit des trucs qu'elle voudrait pleurer, qu'elle aime les hommes qui pleurent, qu'elle aime. Je me souviens de quoi. Et vous la retrouvez deux ou trois mois après, alors on reprend la conversation où on l'a laissée.
Elle
vous dit exactement le contraire. Donc c'est quelqu'un qui je ne me fie absolument pas, qui est capable de mentir comme une arracheuse de dents, mais que je trouve moyennement, pour être franc, humainement moyennement intéressant. Je veux dire,
cas Madonna est réglé.
Non,
Henri-Jean Servat, votre métier a beaucoup changé ces 20 dernières années.
Moi, je trouve pas, parce que moi, je suis toujours la même façon avec un magnétophone, avec J'ai chez moi en Provence, j'ai fait une petite salle de cinéma. Je dois avoir 4500 films. Je regarde les films de gens que j'aime. Donc quand je vais voir quelqu'un, je me prépare de cette façon-là à voir. Non, moi je n'ai pas le sentiment de changer. L'admiration est la même. Isabelle Adjani, je veux dire, est la personne. Mais dans la Reine Margot, j'ai dû voir 13 fois la Reine Margot de Jotun. Je pleurais tout le temps, chaque fois, à un moment d'émotion intense,
bon, vous
de
êtes chavirer. À la fois un fan et un amoureux. Alors, effectivement, vous évoquez Isabelle Adjani, en France, la star la plus mystérieuse du 7e art, c'est sans doute Adjani. Vous expliquez comment, Henri-Jean Serval, le fait que, malgré le temps, Isabelle Adjani ne semble pas se défaire de sa défiance vis-à-vis des médias et vit son art avec une espèce de frayeur, celle d'être incomprise, peut-être,
mais
ou
oui.
trahie.
Mais non, mais parce qu'il y a des actrices, elles ont envie d'être célèbres, il y a des actrices, elles ont envie d'avoir de l'argent, les actrices, elles ont envie de la renommée, elles ont envie d'avoir des fiancés formidables dans leur lit. Isabelle, elle a envie, elle, ce qui lui plaît, elle, c'est son être intérieur, c'est son fort intérieur, c'est vibrer, c'est être en accord avec, en harmonie avec ses sens, avec son cœur, avec sa sensibilité. C'est ça ce qu'elle veut, Isabelle. Elle cherche à frémir. Moi, j'aime ce genre de choses, donc je suis prêt à pas la voir pendant un moment, à la laisser répliquer. Je suis en projet, enfin, On va faire un livre ensemble. Je vais faire un livre avec Isabelle. Ça va être le premier livre qu'elle va faire, Isabelle, qui va s'appeler Le style Adjani, le look Adjani, l'allure Adjani, qui va partir de photos d'elle commentées par elle-même, avec une grande interview d'elle sur l'allure, sur la volupté de paraître ou la volupté de non paraître, quoi, de raconter ça. Et je me réjouis parce que, à quel point d'approcher Isabelle avec beaucoup de pudeur, beaucoup de... Ce que je trouve formidable chez les acteurs, les actrices, ce sont des gens qui sont, disons, très impudiques. Isabelle, c'est la quintessence absolue de ça. C'est la créature la plus impudique qui puisse exister, jouant, exprimant ses sentiments, mettant ses tripes, son cœur et tout sur la table. Et puis, en fait, de rester secret, d'avoir des... Moi, je dois connaître Isabelle depuis 25 ans. Elle a encore des...
Elle a encore beaucoup de secrets
mais
pour
des
vous.
Réactions, mais tout. Mais... Et je ne cherche rien à forcer. Je l'admire. J'ai beaucoup de tendresse pour quelqu'un comme elle. Mais pour d'autres aussi.
Adjani est sans doute, effectivement, la star française la plus mystérieuse. Mais celle qui fut la plus incomprise, c'est Brigitte Bardot. Qui eut le cran d'arrêter sans jamais revenir sur ses adieux. Et qui, depuis 45 ans, sans faillir, donne toute son énergie et son argent, d'ailleurs, à la cause de la protection animale. Que savez-vous de Bardot que les gens ignorent et qui vous touche profondément, Henri-Jean Serva ?
Mais d'abord, Brigitte, quand elle s'est lancée dans la protection animale, c'était une femme. Une femme dans les années 60 qui a osé faire ce genre de choses. Ce que je sais que c'est une femme totalement sincère. Je sais que des fois, par exemple, Brigitte a des phrases qui choquent la population. Moi, m'ont choqué ou désarçonné. Mais on ne peut pas comprendre Bardot si on ne comprend pas que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie aux animaux. Moi, par exemple, depuis que je me suis engagé récemment, enfin, depuis longtemps,
auprès du parti animaliste,
vous passez votre vie, Isabelle, à recevoir des images horribles, des témoignages terrifiants. Vous vivez, pardon, sur votre antenne. On vit dans la merde, on vit dans le sang, on vit dans l'horreur, dans la torture, dans l'ignominie, je veux dire. Brigitte, c'est quelqu'un...
Vous parlez des abattoirs.
Mais bien sûr, les abattoirs, des animaux découpés vivants à la scie électrique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, les pires horreurs, la recherche scientifique, la corrida, les combats, toutes les horreurs absolues, quoi. Et Brigitte, c'est quelqu'un qui vit dans un univers de grâce, irréel, magnifique, les petites robes de Jean Bouquin, les cheveux le blond au vent.
Et elle abandonne tout ça pour une cause. Elle
a quitté tout ça pour
un combat.
Pour une cause qui était une cause. Elle n'avait rien à y gagner, elle n'avait rien à y gagner, puisque vous dites le même, elle a donné tout son argent pour ce genre. Moi, je suis allé avec Bardot. Dans 25 endroits à travers le monde, on a pris des avions, on est parti dans des mouroirs à chiens, chez Ceaușescu en Roumanie, on rentrait des portes où ça puait, on avait envie de vomir. Il y avait 20 épaisseurs de chiens, ou morts, ou mourants, agonisant les uns sur les autres. On a vu que, comment on peut prendre, moi, Bardot, j'étais à toutes les excuses du monde à mes yeux, je veux dire. Quand elle pète les plombs avec l'horreur qu'elle vit, venez à passer une après-midi moi, chez Bardot. Moi, c'est chose que j'ai faite. Ouvrez le courrier qu'elle reçoit. Allez, alors,
donc, elle a contribué à réveiller les consciences.
Mais bien sûr,
elle a commencé à une époque où personne, en fait, voilà, ne se préoccupait de cette cause.
Voilà. Et en plus, ce que vous dites avec beaucoup de justesse, c'est que, en ne gagnant rien, elle a fait en sorte que tout un chacun, maintenant, sait ce que c'est que l'horreur de la souffrance animale.
Henri-Jean Serva, vous aimez par-dessus tout la Camargue, où vous avez votre maison, mais la Camargue, c'est la terre des corridas. Alors, vous gérez comment cette contradiction ?
J'aime la Camargue, je déteste la corrida. J'aime la feria, je déteste la corrida.
Vous voulez en fait des ferias sans corrida.
Mais bien sûr, mais la corrida, c'est la chose la plus ignoble qui puisse exister. Vous prenez un animal qui est un herbivore ruminant, vous le sortez de son terroir normal, vous le mettez dans une arène fermée, généralement il est trafiqué, le taureau, pas tout le temps, mais généralement il est trafiqué, c'est-à-dire qu'on lui scie les cornes, on lui fait prendre des poisons qui lui ravagent les intestins, on peut être des petits beaucoup de cornes, oui, pour que, entre les sabots, de la gelée sur les yeux ou quoi, si on lui balance. Alors il y a un taureau qui était gracié il n'y a pas longtemps, il avait reçu la pique d'un picador 48 centimètres de fer dans le corps. Et après, on l'a lâché dans un champ. Mais il est mort, la pauvre bête. Mais fou... moi, j'ai qu'une théorie. Foutez la paix au taureau.
Donc, vous dites, en fait, vous dites de la corrida que c'est un abattoir à paillettes.
Mais c'est votre formule. Mais c'est une ignominie. C'est une... Mais comment l'âme humaine, comment on peut aller se repaître d'une saloperie pareille? Élevez votre âme, aimez le beau, regardez un tableau de Velázquez, même un coucher de soleil en Irlande, un coucher de soleil à Villeneuve-les-Maguelones, des choses sublimes. Mais n'allez pas voir des saloperies pareilles. Faut... Mais moi, ce que je suis content, ce qui me rend content, c'est que la corrida, il y a de moins en moins de monde qui y vont. Moi, je ne suis même pas pour qu'on la supprime, je suis pour qu'on fasse un référendum. Et il y a 75% des gens, même dans les départements à corrida, qui sont contre.
Europe 1. On n'est pas du tout arrivé au terme de cette balade. Ah bon? J'ai encore 1000 questions à lui poser. On retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Henri-Jean Serva.
Il est tout juste 15h38, on retrouve Isabelle Morizet et son invité Henri-Jean Serva pour la suite de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie », une conversation sans complaisance.
Jamais de langue de bois avec Henri-Jean Serva, qui clame haut et fort cet après-midi ce qu'il pense. Alors, cher Henri-Jean, vous savez traverser les murs parce que vous n'êtes pas seulement celui qui observe et recueille les confidences des artistes, vous êtes un artiste qui a mis sa créativité au service d'un art qui vous chavire au moins autant que le cinéma, c'est l'opéra. Vous avez signé, il y a quelques années de ça, la mise en scène d'une Traviata de Verdi mémorable, donnée en plein air au château de Champ de Bataille, avec pour la lecture du prologue Isabelle Adjani, justement qu'on évoquait à l'instant, Isabelle Adjani qui était venue enregistrer ici, à Europe 1, dans nos studios. Pour les décors, il y avait Jacques Garcia, Franck Sorbier signait les costumes, et puis aux lumières, Robert Hossein. Comment avez-vous pris à bras-le-corps cette aventure
vous
incroyable?
Vous savez qu'on l'a jouée, elle a été jouée 52 fois, cette Traviata.
Mais 52 oui fois, vous l'avez jouée dans les jardins du Sénat, à Paris, au domaine de Sceaux, à Vaux-le-Vicomte, jusqu'en Belgique.
Jusqu'en Belgique, devant le roi et la reine. Mais non, ce qui était, j'avais un ami qui s'appelait Tristan Duval, qui par ailleurs a produit l'exposition Bardot, dont j'étais commissaire à Boulogne, et Tristan Duval m'a proposé une fois, selon le principe des opéras en plein air qu'il avait créé et qu'il présidait, il demandait chaque année à une célébrité ou pseudo-célébrité de mettre en scène un opéra. Et puis un beau jour, on m'a demandé à moi d'en mettre une. J'adorais la Traviata. J'ai voulu faire une Traviata. Pas où je déteste, vous savez qu'on prend une œuvre ancienne et puis on la triture pour lui faire dire autre chose à la lecture des temps présents.
Donc vous avez été très fidèle. Voilà.
Et alors, pour dire l'anecdote qui vous amuse, j'avais demandé à Isabelle, à Gianni, je voulais qu'il y eût un prologue à la Traviata parce que c'était joué en plein air, donc la lumière tombait. Au moment où la lumière tombait, je voulais qu'il y ait une voix aussi sublime que celle d'Isabelle qui lut un texte. Et Isabelle a été d'accord, je lui ai proposé de lire les élégies à Marie Duplessis, qui a inspiré donc la fameuse Violetta. Et donc, c'était en plein été, et Isabelle était arrivée, elle s'était un peu camouflée pour avoir la paix dans la rue. Les studios d'Europe étaient à l'époque dans la rue François 1er, moi je l'attendais. Il y avait toujours deux, trois goguenards, mais elle ne viendra pas. Tu penses Isabelle Adjani ne viendra pas. Et surtout, ils étaient tout le monde, parce que tout Europe 1 l'attendait depuis des années pour faire des émissions dans
les studios.
Et vous
êtes en train de nous expliquer que pour vous, elle est venue.
Elle est venue, pas bon. Enfin, vous avez l'intention de dire pour moi, mais pour la Traviata, elle est venue. Et Isabelle est arrivée. Elle s'est présentée à l'entrée d'Europe 1. Et bonjour, je suis Isabelle Adjani. Elle a dit sa petite voix délicieuse. Et puis elle a dit, je voudrais voir Henri-Jean Serva. On était là. Et puis on a installé Isabelle dans un studio. Et je lui avais préparé le texte des élégies à Marie Duplessis qu'elle a enregistré. Elle les a enregistrées deux fois. Là, moi, c'était la première fois, ça me suffisait, mais elle a voulu le faire deux fois. Elle m'a dit, ça va, Henri-Jean, demandez, est-ce vraiment, il faut que ça aille vraiment.
Donc, vous pouvez dire que vous avez dirigé Isabelle Adjani une
à
fois
Europe
dans 1. Votre vie.
À Europe 1, voilà. Et après, toutes les 54 fois où on a joué donc, cette Traviata, on éteignait les lumières, et à ce moment-là, on l'entendait dans le noir, dans la nuit, sublime, devant les plus beaux châteaux de France, on l'entendait. La voix d'Isabelle qui lisait les élégies d'une femme malheureuse, triste, mélancolique, de sa voix, mais je veux dire, ça mettait dans l'ambiance tout de suite, on comprenait ce qu'on faisait.
Alors, cher Henri-Jean, revenons à vous. C'est tout de même un exercice très singulier et très périlleux, quand on l'a jamais fait, de s'emparer du livret d'une œuvre lyrique pour plaquer dessus son imaginaire en dirigeant des chanteurs d'opéra. C'est quand même incroyable.
Ah ben oui, bien sûr.
Mais alors, vous y êtes pris comment?
Mais moi, ce que j'avais fait une lecture d'abord à la table pour expliquer ce que je voulais, les intentions, le texte, comment, pourquoi. J'avais voulu le jouer avec les intentions de Verdi. Vous savez que c'était l'histoire d'une femme. Bon, c'est l'histoire d'une rédemption. Puisque la Traviata, c'est l'italien, ça veut dire la dissolue. Ça veut dire, on ne dira pas ça comme ça, mais moi, la pute, quoi. Voilà, ça veut dire un peu ça. La femme, la rédemption. Et moi, je voulais raconter qu'un point, une femme se relevait. Pour une femme, elle trouvait sa dignité. Pourquoi on dit qu'on tombe en amour? On tombe amoureux. Moi, j'ai pas le sentiment quand je tombe amoureux, je tombe amoureux.
On se lève.
Je suis grandi
plutôt.
au contraire. Et ben, je voulais montrer que cette Traviata dont on disait qu'elle tombe amoureuse et puis qu'elle était tombée dans la fange, au contraire, elle tombait amoureuse de son Germont et ça la faisait s'élever. Donc, j'ai voulu que ce fût une leçon d'élégance, de chic, de classe, de distinction.
Et je sais que cette Traviata a beaucoup plu.
Ah non, c'était bien, très bien.
Vous avez toujours été fascinée par Callas. Callas est morte en 77 à Paris. Trop tôt donc pour que vous la rencontriez.
Oui, je n'ai pas rencontré. Mais vous savez, je suis capable. Ça arrête parce qu'on va dire quel prétentieux. Mais quel prétentieux. Snobinard et prétentieux.
Voilà, assumé, Henri-Jean.
Mais
assumé.
J'assume. Snobinard, j'assume. Prétentieux, j'assume aussi. Moi, je peux vous faire, j'ai fait plusieurs fois, des conférences sur Callas pendant une heure et quart sans une note. Parce que Callas, vous la mettez quelque part, elle chante, c'est-à-dire que avec rien, vous voyez ce que avec rien. Mais quand là, vous fermez les yeux, vous écoutez quelque part cette voix qui pleure, tous les sentiments sont là. Et ce que si je voulais dire quelque chose chez vous, 10 secondes, on s'imagine toujours que l'opéra c'est un art d'une élite de gens. C'est pas vrai. L'opéra c'était créé, c'était joué pour des paysans, c'est joué dans des fermes. Mozart a créé ses opéras dans des fermes de Vienne et tout ça. L'opéra, ceux qui nous écoutent, s'ils osent pas ou quoi, écoutez l'opéra, allez acheter un disque de Callas, écoutez pleurer, c'est magnifique. C'est pas du tout pour les riches, c'est pas pour les gens intelligents. L'opéra, c'est un art populaire, le plus populaire qui puisse exister.
Europe 1. Et ben voilà, cet après-midi, je reçois vraiment un passeur, d'ailleurs, qui signe des livres qui vont de Petit traité du protocole à la cour de Louis XIV à Édith Piaf, La gloire et les larmes, ou encore de Romy Schneider à Marie-Antoinette, L'insoumise. Cet homme est porté par une fougue permanente, il est euphorisant. On fait une pause et on retrouve Henri-Jean Servat.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit. Pour quelques minutes encore, on retrouve Isabelle Morizet et Henri-Jean Serval, journaliste et chroniqueur, invités à l'occasion d'une actu estivale. Et oui, un seul en scène prévu en juillet du 5 au 28 précisément au Festival Off d'Avignon.
Henri-Jean Serval, l'une de vos singularités à la télé, et pas des moindres, est que vous êtes l'homme sans prompteur, sans notes et sans oreillettes, à une époque où faire de la télé consiste la majeure partie du temps à lire un texte qui défile sur un écran. Est-ce qu'il faut attribuer ça au goût pour la conversation qui est le vôtre? Est-ce que vous déplorez par exemple que ce goût pour la conversation, qui fut longtemps l'apanage des salons littéraires français, ait totalement disparu?
Oui, alors j'ouvre une parenthèse en 10 secondes, qui était, puisque j'ai la chance et le bonheur de faire des émissions de télévision avec vous, chère Isabelle, je sais que vous êtes aussi, vous, quelqu'un qui n'utilisait jamais de prompteur et n'avait jamais de micro. On peut le dire au passage, ça c'est dit au passage. Non, moi je n'utilise jamais parce que, mais en revanche, je ne fais pas n'importe quelles émissions, moi je ne fais que des émissions dans lesquelles je pourrais parler de choses que j'aime ou de choses auxquelles j'ai un avis tranché. Et je veux jamais n'avoir de prompteur. Jamais, jamais. Que ça sert. Je trouve que c'est réducteur. On ne dit pas ce qu'on a envie de dire. Alors que je fais plein d'émissions de télévision avec des gens qui ont chacun à son prompteur. Il faut caler le prompteur avant. Mais pour dire des fois des choses, des idioties, en fait, des faits factuels.
Des platitudes.
On a calé ça, des platitudes.
Cher Henri-Jean, cas, au mois de juillet, du 5 au 28 juillet, vous nous donnez rendez-vous dans la Cité des Papes pour le Festival Off d'Avignon avec un seul en scène savoureux qui fait la part belle à vos rencontres les plus folles et les plus glamour avec les stars internationales qui ont marqué le siècle. Le spectacle a pour titre Une soirée so chic avec Henri-Jean Servat, Mes nuits et mes jours avec, alors plein de prénoms défilent derrière les points de suspension. Et tout cela se déroulera donc dans la salle de bal de l'hôtel Pont d'Avignon. Mais quel programme, Henri-Jean, programme !
C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je vous ai raconté tout à l'heure que pour Libération, je suis allé chez les grandes légendes du cinéma en noir et blanc, mais pour Paris Match, je suis allé chez Georges Clooney, je suis allé chez Tom Selleck, je suis allé chez Madonna, je suis allé chez Gina Lollobrigida.
Chez Stallone,
je suis allé chez Bardot, n'en parlons pas, chez le roi d'Espagne, chez la reine de Danemark, je suis allé chez Zidane, je suis allé, incongru, hallucinant ou quoi, mais qui m'ont plu. Et puis chaque fois, j'ai pas laissé, il y a qu'une star internationale avec laquelle je suis fâché, mais c'est Catherine Deneuve. Mais en dehors de ça, je ne suis fâché avec personne et j'ai plutôt laissé des bons souvenirs. Et eux m'ont laissé de bons souvenirs aussi. Donc je voulais raconter comment je me suis retrouvé dans la piscine de Stallone, comment je me suis retrouvé. Et alors, je trouvais le raconter en construisant un peu mon histoire, en voulant être drôle et raconter comment le petit mec. Comment je suis allé Charlotte Laguiller. Je suis allé.
Il se trouve. Oui, parce qu'il n'y a pas, en fait, que le roi d'Espagne. Il y a Arlette Laguiller.
Oui, parce que j'adorais chez cette femme le côté énergique qu'elle avait, le côté. La foi, la rigueur, la clarté, l'honnêteté. Je ne suis pas d'accord avec ses idées politiques, mais elle avait une démarche, une rigueur de propreté. Et il se trouve, pardon, est-ce que je peux le dire en catimini? il se trouve que j'ai une Rolls. Voilà, que je me suis acheté moi.
Non, non, mais attendez, vous n'êtes pas allé en Rolls si. Chez Arlette Laguillier,
Henri-Jean Servat. Mais pas pour faire du frima ou du tabac.
Bon alors, maintenant, il faut tout de suite nous expliquer la réaction d'Arlette Laguillier, vous voyant descendre d'une Rolls.
Mais non, parce que...
Elle a pris ça pour de la provocation.
Mais je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas provoquer. Et j'ai embarqué avec moi un photographe qui s'appelle Willy Rizzo, qui est le grand copain de Federico Fellini. C'est lui qui a inspiré le personnage de Marcello Mastroianni dans La Dolce Vita. Donc j'ai emmené Willy avec moi dans ma voiture, on a emmené une journaliste de Paris Match qui connaissait un peu la politique et on est parti au Lila où habite Arlette Laguillier.
Et la Rolls était garée devant la maison d'Arlette Laguillier.
Oui, mais c'est, à part que c'est une tour, c'est un immeuble. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme dans les films de la Warner des années 40 avec Humphrey Bogart ou Georges Raft. J'ai pris des billets, j'ai déchiré les billets, il y avait des gosses devant. J'ai dit voilà, tu auras l'autre moitié si ma voiture est encore là quand je redescends. Et on est monté chez
ça,
Arlette.
Ça, c'était dans une scène de film, ça.
Ah oui, c'est dans une scène de film. Alors ouais. On est monté chez Arlette. Arlette Laguille, elle a un appartement qui est grand comme le studio dans lequel on est en ce moment. Donc, elle s'était mise, elle avait garni ses murs avec des posters de Venise, de Florence, de Pise, des grandes villes italiennes où elle était allée en aimant. Mais c'était des affiches de syndicats d'initiative, d'office du tourisme. Et elle s'est mise dans une espèce de fauteuil, mi-rocking chair, mi-fauteuil. Et Willy Rizzo a fait la photo avec un fisheye. On a l'impression qu'elle est dans la galerie des glaces du palais de Versailles. Parce que je veux dire quoi. Et surtout, ce qui était beau, quand je lui ai dit que j'étais venu chez elle parce que c'était mon anniversaire et que j'avais eu 104 anniversaires, elle m'a dit moi, mon anniversaire, c'est moi, mon anniversaire, je suis né un 9 mars. Arlette me dit je suis né un 18. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a envoyé sa copine dans les petits cafés, les épiceries arabes ou n'en ou pas.
Pour faire venir un petit gâteau d'anniversaire.
Du bonnet, des machins de quoi. Et on a saucissonné chez Arlette la Rolls en bas avec Willy Rizzo. Ça, je trouvais que c'était. Mais je veux dire, oui, j'ai pas voulu le faire, j'ai pas voulu calculer, j'ai pas voulu quoi. Je me suis retrouvé dans ce truc-là comme ça. Et après, Arlette Laguillier m'a invité à toutes ces heures de vérité. À l'époque, moi, j'habitais avenue Montaigne en face de France 2. Et elle était aux heures de vérité à France 2.
Et vous faisiez
et moi, j'étais en face d'elle.
Garde du corps d'Arlette Laguillier.
Alors, je veux raconter ce genre de truc.
Souvenirs.
J'ai 150 histoires comme ça.
Voilà. Savoureux qu'on pourra entendre donc dans le Festival Off d'Avignon du 5 au 28 juillet avec un seul en scène baptisé Une soirée sans chic avec Henri-Jean Servat. Ce sera dans la salle de bal de l'hôtel.
C'est prétentieux,
hein, d'Avignon.
C'est prétentieux comme titre. C'est prétentieux.
Non, c'est tout simplement sincère mais voyez, avec plein de fantaisie et puis ça vous ressemble. Je vous connais depuis longtemps et je sais que vous êtes une belle personne. Je vous souhaite un très bel été, Henri-Jean Servat. Ne changez rien,
moi,
promis.
Je vous connais depuis longtemps et je vous aime aussi beaucoup. On a un compagnonnage ailleurs. Ceux qui nous écoutent le savent et je suis très heureux et honoré d'être votre ami et d'être en émission. Ça, voilà.
Bel été.
Merci beaucoup.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation que vous pouvez bien sûr réécouter en replay et en podcast sur europe1.fr. Isabelle Morizet revient dès demain, de 15h à 16h sur Europe 1 avec un nouvel invité et ce sera Benabar, actuellement à l'affiche d'un vaudeville cinématographique, un film, qui a pour titre Beaux-parents, qu'il a coécrit. Benabar, co-scénariste donc, mais aussi acteur aux côtés de Josiane Balasco et Didier Bourdon.